Europe 1.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous. Notre invité a suscité une avalanche de réactions depuis sa tribune dans Le Figaro, intitulée « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». Bonjour à vous Henri Guénaud.
Bonjour.
Et merci d'être notre invité. Vous avez été le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Rappelons que vous avez été proche de Philippe Séguin, commissaire au plan également. Vous avez notamment inspiré la campagne du non à Maastricht et Chirac, le Chirac de 95. Aujourd'hui, tandis que sur le terrain ukrainien, l'avancée des Russes semble inexorable, où sont les chercheurs de paix? Et peut-on encore, Henri Guénaud, chercher à comprendre sans être critiqué, comme vous l'avez été? En tous les cas, comprendre, c'est l'objectif de ce grand rendez-vous avec mes camarades. Nicolas Barré et Les Échos, bonjour à vous.
Bonjour Sonia.
Et le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Tout d'abord, Henri Guénaud, les images de vives tensions et d'incidents hier lors de la finale de la Ligue des Champions autour du Stade de France, elles ont fait le tour du monde et ce sont les médias étrangers qui en parlent ce matin. Honte, scandale, fiasco, je vous cite à l'instant quelques-unes. Hein. Sécurité en crise, écrit El País, The Guardian qui parle de chaos, CNN de gâchis, c'est la réputation de notre pays qui est atteinte.
Il est sûr que l'image du pays n'en sort pas grandi. Bon. Cela dit, pas la première fois qu'il y a des problèmes. Je ne vais pas me lancer dans l'imbroglio qui a conduit à cette situation. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les faux billets. Mais d'abord, j'observe que les supporters qui ont mis du désordre n'étaient pas des supporters français. Hein, c'était d'abord des supporters anglais, quelques supporters espagnols. Il y avait 6800 policiers, je crois, gendarmes mobilisés, donc les précautions avaient été prises. Mais enfin, c'est pas la première fois qu'on assiste, même si dans les dernières années ça s'était un petit peu calmé, à des violences de ce genre autour des matchs de foot.
Et en pas pour autant qu'il faut s'y habituer, c'est-à-dire... Par rapport à ce qui se passe dans une compétition aussi importante et avec des clubs évidemment de renommée internationale, quelles peuvent être les retombées ?
Je crois surtout que c'est l'image de l'Occident dans son ensemble là, qui se trouve affectée. Parce que cette violence-là n'est pas pire, l'image n'est pas pire pour la réputation de la France que le pillage de l'Arc de Triomphe, enfin, qui a fait le tour du monde. C'est pas pire non plus que la prise d'assaut du Capitole par des Américains. Bon, entrer à l'intérieur, même tuer des gens et qui a fait aussi le tour du monde. Donc, je crois qu'il y a une violence aussi qui monte et que l'Occident qui est toujours prompt à donner des leçons au monde entier donne aujourd'hui l'image de société qui se fracture et qui n'arrive plus à gérer la violence qui monte.
Et de quoi cette violence est-elle le symptôme?
Alors, le symptôme d'un malaise très, très profond de nos sociétés. Nos sociétés se sont fracturées. Elles se sont ouvertes de façon inconsidérée, sans précaution à la mondialisation, et elles sont en même temps sont fragilisées sur le plan économique et social, et elles se fragilisent beaucoup sur le plan de la civilisation. Une espèce de désintégration de tout ce qui nous fait, de toute l'armature de principes, de valeurs, d'imaginaires communs, voire de morale commune, qui nous permet de vivre ensemble. Donc il y a à l'intérieur de la civilisation occidentale, en général, qui se décline de façon un peu différente d'un pays à l'autre, un malaise dans la civilisation très profond. Et quand il y a un malaise dans la civilisation, on n'arrive plus à contenir la violence. Les sociétés très divisées, elles finissent toujours par essayer de se réunifier dans la violence. C'est instinctif. Si rien ne vient endiguer la violence qui est dans l'homme, elle finit par ressortir, par s'exprimer, ce qu'on voit de plus en plus.
On ne se retrouve plus dans nos valeurs, c'est ça que vous voulez dire, dans nos valeurs occidentales?
Je crois qu'on a beaucoup, on a beaucoup affaibli le partage des valeurs. C'est-à-dire que pour vivre ensemble, il faut partager un certain nombre de choses, tout à fait fondamentales. D'abord un imaginaire commun, et puis un système de valeurs ou une morale commune. C'est-à-dire que il faut qu'on puisse se parler, ça c'est l'imaginaire, hein, faut qu'on puisse se comprendre. Et puis il faut que on partage une idée à peu près commune du bien, du mal, du vrai, du faux, etc. Bon, et je pense qu'il y a à l'intérieur de la civilisation occidentale une désagrégation, une désintégration de ce qui la de ce qui maintient les sociétés ensemble. Et encore une fois, prendre des allures différentes en fonction de chaque pays, de chaque tradition, de chaque histoire. Mais il y a quand même une fragilité de plus en plus
donc
grande.
Donc ce n'est pas une spécificité française, ce que l'on voit et qui choque ce matin.
Le Capitole, ce n'était pas français. Hein.
Bien sûr.
Par exemple, non, mais je prends cet exemple parce qu'il a été extraordinaire pour le monde entier. C'est-à-dire, quelque chose de sort n'était jamais arrivé aux États-Unis, bien que la société, on voyait bien, se fracturer de plus en plus. Donc, on a vu des manifestations extrêmement violentes dans l'ex-Allemagne de l'Est, dans les provinces de l'Est allemande au moment de la crise migratoire, mais d'une violence, même la violence des plus violentes manifestations en France n'a jamais atteint. On voit bien la violence aussi montée très, très facilement au Royaume-Uni. On voit bien la Suède qui
c'est
récemment...
C'est une maladie de l'Occident, alors, de la civilisation occidentale.
Oui, en tout cas, c'est très frappant en Occident. Voilà, il y a une fragilisation de la civilisation commune dans chaque société qui me paraît être le fait majeur de ce début du XXIe siècle, parce que ces sociétés n'arrivent plus à canaliser la violence, alors la violence ordinaire, hein, celle du quotidien, la violence des émeutes des banlieues, la violence autour de manifestations qui ne devraient pas susciter de la violence, mais au contraire de la communion, comme les manifestations sportives. Bon, c'est un fait. Alors, on peut le nier, on peut dire non, on est moins violent. Alors c'est sûr, on est moins violent qu'en 1930.
Est-ce qu'on ouvre les yeux, Henri Guénaud? Est-ce qu'on a ouvert les yeux sur ce que vous décrivez, sur cette maladie, sur une forme finalement de désagrégation d'une civilisation?
Non, je crois que d'abord, c'est pas la première fois que nos sociétés traversent un malaise profond dans la civilisation. C'était d'ailleurs le titre d'un livre de Freud, puis ensuite d'un livre qui avait rassemblé un article de Freud et un article d'Einstein qui s'appelait Le malaise dans la civilisation dans les années 30. Bien. Donc c'est pas la première fois, mais ce qui me frappe dans notre époque, c'est cette idée que ce qui est arrivé à nos prédécesseurs ne peut plus nous arriver. Voilà, ça, il y a quelque chose là de très étonnant dans notre façon de penser le monde et de nous penser nous-mêmes, qui consiste à dire, écoutez, on n'a rien à apprendre des autres parce que nous, on est tellement meilleurs, on a pris tellement de précautions et ça ne peut plus nous arriver. Les grandes crises financières, ça ne pouvait plus arriver.
Et qu'est-ce qui pourrait arriver?
Mais tout peut arriver, tout ce qui est arrivé dans le passé, c'est-à-dire la guerre, ça peut arriver. On disait les épidémies... infectieuse, ça ne peut plus arriver, ça peut arriver au pays du tiers-monde, mais pas à nous, nous sommes trop développés. Ça explique d'ailleurs beaucoup des décisions qui ont été prises et qui nous ont menés dans l'impasse que nous avons connue pendant la pandémie. La guerre, ça peut plus arriver, ben, brusquement. C'est une idée qu'on rejetait complètement. Vous savez,
en tout cas,
la Yougoslavie, Belgrade, c'est plus proche de Paris en avion que Kiev. Mais bon, ça... C'était dans les Balkans. Et là, brusquement, apparaît une guerre qui commence à prendre une dimension considérable. Et on se rend compte que la guerre peut nous arriver. La guerre civile, elle est arrivée dans le passé. Elle peut nous arriver.
La guerre civile peut arriver en France.
Bien sûr, elle peut arriver. Mais elle peut arriver n'importe où. Mais c'était quoi la scène?
Dire ça, Henri Guénaud.
La scène du Capitole, c'était quoi sinon une scène de guerre civile, même si elle est encore très, très limitée?
Des scènes comme ça-là peuvent arriver en France.
Tout peut nous arriver. Voilà, il faut bien comprendre que ce qui est arrivé aux générations passées peut nous arriver aussi, parce que ce qui est arrivé aux générations passées tient en général à la nature humaine, et que nous avons oublié que la nature humaine, elle ne changeait pas beaucoup au fil des siècles.
Et c'est l'alerte que vous avez tirée justement dans votre tribune publiée il y a 2 semaines dans le Figaro. On va vraiment en parler, Henri Guénaud, d'abord parce que vous avez mis en garde contre la montée aux extrêmes justement et la tentation de la guerre totale. Ça a suscité grand bruit. Certains n'ont pas hésité, il faut dire le mot, à vous qualifier de traître, de lâche. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui?
Oui, alors d'abord, ce qui est intéressant, d'habitude il y a toujours une hystérie sur les réseaux sociaux, mais ce ne sont pas les mêmes hystériques, là. Ça, ce sont des hystériques qui ne font pas de faute d'orthographe, vous savez, qui sont... Bon, ils font souvent, hein, d'ailleurs, ils font souvent cachés malgré tout sous des pseudonymes, à part quelques-uns. Et c'est très frappant de voir cette utilisation caricaturale de l'histoire. Moi, on m'a dit, alors, dans le meilleur des cas, je suis Daladier. Je vais y revenir dans un instant. Dans le pire des cas... pas loin d'être un partisan d'Hitler ou un Marcel Déa, voyez, ou Pétain, voilà, c'est extraordinaire. Alors Daladier, ça m'a beaucoup frappé parce que c'est vrai, Munich, c'est resté comme histoire d'un renoncement ou d'un reniement. Enfin, l'histoire est plus compliquée pour des gens qui sont censés être des experts, qui sont censés avoir beaucoup lu et étudié l'histoire. C'est quand même plus compliqué que ça. Et Daladier était, on peut dire qu'il s'est trompé, on peut lui reprocher, mais c'était tout sauf un lâche. Vous savez, c'est quelqu'un qui a fait 4 ans de guerre, qui a commencé sergent, qui est sorti lieutenant, qui a avec 3 citations à l'ordre de la division. La plupart de ceux qui donnent des leçons et qui assimilent Daladier à la figure du lâche sont des gens qui n'ont jamais rien fait dans leur vie de très courageux.
Là, vous parlez de ces, je mets entre guillemets, ces élites qui vous ont beaucoup critiqué. Oui, enfin, je mets beaucoup de guillemets.
Pas des élites.
Autoproclamés, on va dire. Des
pseudo-intellectuels ou pseudo-experts.
Qui vous ont dit Daladier, qui vous ont dit Munich, qui vous ont dit Pétain, qui vous ont dit traître parce que vous ne soutenez pas.
Mais est-ce qu'on abuse de référence à la Deuxième Guerre mondiale dans tout ça quand on dit Munich et ainsi de suite? Ça biaise notre jugement par rapport à aujourd'hui?
Alors moi je pense que c'est pas, d'abord je pense que c'est pas la meilleure référence. Moi j'ai illustré mon propos sans écarter la Deuxième Guerre mondiale.
Hein, par 1914.
Mais j'ai illustré mon propos d'abord, qui est un propos non pas sur Poutine, sur la Russie, mais sur la guerre. Avec l'enchaînement qui a conduit à la Première Guerre mondiale et qui, de la déclaration de guerre jusqu'à la fin, nous a conduit à 20 millions de morts et ensuite à préparer la suite. Parce que, deux choses l'une, où on est, comme le prétendent certains, en 39, et Poutine, c'est Hitler. Mais si Poutine, c'est Hitler, alors il faut assumer la conséquence de ce diagnostic. Hitler, c'est quelqu'un qui est prêt à l'anéantissement du monde, hein, qui est prêt à voir le peuple allemand disparaître parce que le peuple allemand n'a pas été à la hauteur de ce qu'il imaginait être la vocation du peuple, de la race supérieure dans l'histoire.
Différence étant que Poutine a l'arme nucléaire. Quand
Bien sûr, mais c'est très intéressant. Si c'est Hitler, on ne discute pas avec Hitler, on sait que de toute façon, Hitler, il ira jusqu'au bout. Et donc, il faut dire aux peuples européens, et au monde entier d'ailleurs, c'est Hitler, nous ne discuterons pas avec lui et il faut l'exterminer. Parce qu'avant qu'il n'extermine une bonne partie de la planète. Donc, combien de dizaines de millions d'euros? Mais si c'est ça, si c'est ce qu'on pense, il faut aller au bout et l'assumer. Bon, moi, je ne pense pas que Poutine soit Hitler. Alors, je suis pas le premier à le dire. J'ai vu qu'Edgar Morin disait ça. Edgar Morin qui a 100 ans aujourd'hui, qui a été dans la résistance. Oui, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant ce qu'il dit. Et il dit, mais non, mais voilà, c'est pas Hitler. Lui, il sait ce qu'a été Hitler. Donc, on peut détester Poutine, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais si c'est Hitler, alors on va directement, non, pas seulement à la guerre totale, mais sans doute à l'apocalypse nucléaire.
Henri Guénot, on va continuer à en parler, c'est très important. Vous avez cité Edgar Morin, on pourra citer également dans quelques instants Henri Kissinger, qui a tenu la même analyse que vous également. Vous allez y répondre, on va marquer une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Comprendre, c'est le maître mot de cette émission, de ce grand rendez-vous avec notre invité, Henri Guénot. Comprendre, ou tenter de comprendre ce qui s'est passé hier aux abords du Stade de France et comprendre, bien sûr, ce qui nous arrive sur le sol européen avec la guerre en Ukraine. Au Forum économique mondial de Davos, Henri Guénot, l'ancien secrétaire d'État et quel diplomate, Henri Kissinger, a suscité de très vives réactions et même des critiques importantes en pointant le danger inhérent, dit-il, à une défaite humiliante de Poutine, estimant au contraire, je cite, que des concessions territoriales à la Russie seraient le gage d'une paix durable. Vous êtes sur la même ligne ?
Alors, d'abord, je pense que c'est une voix qui mérite d'être écoutée, même si elle a toujours suscité des controverses très fortes. Enfin, faut se souvenir que Henry Kissinger, c'est l'homme qui a sorti les États-Unis de la guerre du Vietnam. C'est lui qui a rapproché la Chine des États-Unis. Il a eu le prix Nobel de la paix. Alors, ça n'a pas plu à tout le monde. Hein. Je me souviens d'intellectuels français qui ricanaient parce que ce prix Nobel avait été donné à un homme d'État américain qui plus est républicain et pas démocrate. Bon. Mais c'est quand même une voix qui compte et qui a dit beaucoup de choses intelligentes et qui incarne un des deux grands courants de la géopolitique, et notamment de la géopolitique américaine. C'est-à-dire ceux qui pensent qu'il faut, un peu comme le général de Gaulle, qu'il faut faire la politique à partir des réalités, et ceux qui pensent que les États-Unis ont un rôle messianique dans le monde, qui est de répandre de gré ou de force le modèle de démocratie, de valeurs, de façon de vivre américain ou occidental, si on préfère. Et moi, je suis frappé d'ailleurs de l'évolution du débat aux États-Unis. Je vais revenir sur Kissinger, mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les éditos de, les éditoriaux du principal, enfin, éditorialiste vedette en matière internationale du New York Times sont pas du tout un journal taché au républicain, anti-trumpiste, et qui était pour la guerre en Irak, etc., et qui a quelques semaines a fait un édito en disant ça devient très dangereux pour les États-Unis. Donc l'équipe Biden le sait, elle devrait le prendre en compte.
Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on est à un moment de bascule, on est dans un entre-deux où votre voix, celle d'Henry Kissinger, d'autres éditorialistes américains sont en train de dire attention.
Il y a beaucoup de gens en fait qui le disent. Alors maintenant, ils s'expriment un peu plus. C'est pas à cause de ma tribune qui n'a pas fait le tour du monde, mais
parler du débat français.
Moi, je constate que des gens dont on peut ne pas partager toutes les idées, mais on peut pas dire que ce sont des poutinistes, des partisans des dictatures, des qui ne croient pas du tout à l'ordre international. Vous avez en Allemagne Habermas. On n'avait pas baptisé la deuxième conscience de l'Allemagne. Celui qui pense d'ailleurs que il faut avoir une fidélité aux institutions plus qu'aux nations. Donc, vous voyez, c'est pas du tout hein, qui a connu enfant le totalitarisme nazi et qui a l'obsession d'ailleurs d'éviter le retour du totalitarisme. Il s'est fait agonir d'injures quand il a dit il faut que l'Occident arrête de faire des coups de poker dangereux. Donc on a cité Kissinger. En France, Edgar Morin. C'est tous des gens qui ont connu ces périodes terribles. Kissinger, adolescent, a dû fuir l'Allemagne parce qu'il était juif pour se réfugier aux États-Unis.
Tu es en train de nous dire savent de quoi ils parlent?
Ils n'ont pas forcément raison, et moi non plus. Simplement, on peut pas les jeter dans les poubelles de l'histoire en expliquant que ce sont des partisans de Poutine.
Pour revenir à Kissinger, sur ce qu'il propose, est-ce qu'il faut faire des concessions à la Russie en Ukraine?
Il n'y a pas Kissinger. Les Italiens ont proposé un plan de paix. Moi, je pense qu'il faut pas brûler les étapes. C'est-à-dire que les concessions territoriales, ça, c'est pour après, ça fait partie de la négociation. Là, pour ouvrir le champ de la négociation, ce qu'on aurait pu faire avant, d'ailleurs, je pense qu'on n'aurait jamais dû arriver à ce stade de la guerre, mais c'est ce qui est de la responsabilité de l'Occident et pas seulement de l'Ukraine. C'est de savoir si on continue d'ouvrir la porte de l'OTAN à tous les pays qui le demandent, commencer par l'Ukraine, ou bien si on dit non, l'Ukraine, sa vocation, c'est d'être neutre entre les deux blocs, ce qu'avait dit d'ailleurs Kissinger en 2014.
Et d'autre part,
est-ce qu'ils doivent rentrer dans l'Union européenne?
Mais disant cela, est-ce que vous reprenez cette explication, parmi d'autres explications, que l'expansion de l'OTAN a contribué à l'évasion de l'Ukraine par la Russie?
Oui, c'est-à-dire qu'elle a contribué à cet enchaînement. Il ne s'agit pas de peser les responsabilités des uns et des autres, il s'agit de comprendre quel est l'engrenage.
Mais est-ce qu'en essayant de comprendre, d'analyser, justement, je vous pose la question parce que les critiques étaient quand même basées là-dessus, il faut que nos auditeurs et nos téléspectateurs comprennent, Henri Guénaud, est-ce que vous n'apportez pas de l'eau au moulin de Poutine en reprenant rhétorique qui, oui, je sais, c'est un
toujours,
débat
ça,
piégé, mais
ça la m'a question toujours, est Ça m'a pertinent. Toujours fasciné, cette idée que essayer de comprendre ou d'expliquer, c'était déjà excusé. Non, mais si vous voulez régler le problème, il faut quand même essayer de comprendre et prendre conscience que nous sommes dans cet engrenage qui nous a très souvent dans l'histoire, nous et d'ailleurs les autres dans toutes les parties du monde, entraîné à la guerre. La guerre qui est un processus dont on ne maîtrise pas l'escalade, voilà, et dont on perd à toujours à un moment donné le contrôle. C'est-à-dire ce mécanisme psychologique par lequel chacun prête à l'autre ses propres ambitions, ses propres peurs, etc. Donc chaque fois que les Russes ont fait quelque chose, les Américains ou les Occidentaux ont dit, voyez, c'est bien la preuve qu'ils sont bellicistes ou agressifs. Et chaque fois que les Américains ou les Occidentaux ont fait quelque chose, les Russes se sont dit, c'est bien la preuve que nous avons raison.
Henri Guénaud, du XXe siècle, nous avons retenu des Américains, pour l'essentiel, cette idée d'une capitulation sans condition. Est-ce qu'avec la Russie, en ce moment, la tentation peut-être des Américains serait cette idée, dans les circonstances, en Ukraine, l'équivalent d'une forme de capitulation sans condition appliquée au contexte ukrainien?
Oui, alors c'est ce qu'a dit Habermas. Il a dit qu'il faut arrêter de raisonner. Enfin, les jeunes générations raisonnent en victoire ou défaite. Victoire totale, défaite totale. De toute façon, je veux dire, il ne faut pas que l'Ukraine perde. Mais d'un autre côté, la Russie ne perdra pas.
Pourquoi elle ne perdra pas?
Elle ne perdra pas parce que c'est la Russie, parce qu'elle a des milliers de têtes nucléaires, parce que personne n'ira faire la guerre en Russie, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais elle peut tenir très longtemps. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer...
Est-ce qu'elle n'a pas déjà perdu, ou alors il faut
que l'Occident entre en guerre. Voilà, mais en guerre réelle, en guerre face à face. Et c'est, le risque, c'est que dans l'engrenage de la guerre, finissent par faire, par se retrouver dans cette situation. Donc, et si en admettant, moi je ne crois pas pensable en réalité, que la Russie perde vraiment, soit, comme a dit Kissinger, moi c'est pas un mot que j'emploie, humilié, mais en tout cas, au moins acculé, bon, ça deviendrait le pays le plus dangereux du monde, exactement comme l'Allemagne après 1918.
Mais alors que fait-on, voilà. Henri Guénaud? C'est-à-dire, vous dites, il faut, bon, on... Mettons de côté le mot humilié. Il ne faut pas plier.
Comme le disait M. Barré, il y a l'armement nucléaire aussi qui a changé.
Mais qu'est-ce qui nous garantit pour la suite que Poutine n'ira pas, justement, dans d'autres pays, ne va pas aller menacer la sécurité de la Finlande?
Ça vient, continuons le raisonnement. On peut faire toutes les hypothèses qu'on veut. Mais si on le pense vraiment, alors il faut dire aujourd'hui, nous allons vers la guerre, pas la guerre par procuration, pas la guerre indirectement. Nous allons vers la guerre. Et ce sera une guerre européenne d'abord. Ça sera probablement une guerre nucléaire. Voilà. Il y aura un affrontement direct entre l'Occident. Voilà, si cette hypothèse est privilégiée, il faut le dire.
Vous avez utilisé à quelques reprises un terme qui m'étonne de votre part, c'est le mot Occident. Alors le mot Occident, ça permet quelquefois de rassembler les deux rives de l'Atlantique dans le même camp, mais est-ce que l'Europe et les États-Unis ont les mêmes intérêts dans les circonstances?
Non, mais vous remarquerez qu'ils ont pour l'instant la même stratégie. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, et ça devrait... Il y a beaucoup de questions qui nous sont posées par cette guerre. Et une de ces questions, c'est l'Europe. Donc on nous a dit, l'Europe, elle doit être doit représenter une capacité de résistance aux empires. Il faut pas qu'elle soit asservie ni aux uns ni aux autres. Et la seule façon de ne pas être asservie, c'est l'Europe puissance, l'Europe même dit souveraine, qui est un abus de langage. Mais et de quoi se rend-on compte? C'est première crise majeure. En bordure des frontières européennes, première crise majeure, l'Europe disparaît. C'est-à-dire que l'Europe est dans une situation aujourd'hui où elle suit les États-Unis.
Bon,
c'est l'inverse quand on entend des dirigeants, des ministres français. Hein. Alors, c'est le retour de l'Europe, le président lui-même, hier avec Olaf Scholz.
Ce qui est intéressant, c'est d'abord, elle suit, paquet de sanctions, de livraison d'armes en livraison d'armes, de discours pour beaucoup très bellicistes. Elle suit les États-Unis sans s'en démarquer.
Au moins, elle est unie.
Alors, justement, le plus intéressant, c'est qu'en plus, elle n'est pas unie. C'est-à-dire que elle commence à se désunir. Vous avez, par exemple, la France, l'Allemagne et l'Italie qui commencent à dire. Il faudrait peut-être trouver des solutions. L'Italie, encore une fois, a même mis un plan sur la table. Je pense que c'était trop, aller trop loin dans un premier temps, rentrer trop dans le détail. Mais on voit bien que, les pays de l'Est sont radicalement opposés, d'ailleurs, à ce que font ces trois pays, hein, soit à l'exception de la Hongrie, qui a des rapports très particuliers avec la Russie. Mais, il y a une division de l'Europe. Et en même temps, pour l'instant, tout se passe comme si l'Europe était à la remorque des États-Unis. Or, l'Europe, pour ses intérêts à la fois immédiats, c'est-à-dire éviter qu'il y ait une guerre sur le sol européen et qu'en plus elle risque de se développer, de se produire avec des armes nucléaires tactiques un jour ou l'autre, elle a aussi des intérêts à moyen et long terme qu'elle est en train de sacrifier.
On va en parler, Henri Guénaud, ces intérêts à moyen et long terme, ils ont évidemment une importance cruciale, c'est le marché énergétique, c'est le blé, arme géopolitique. Une courte pause et on se retrouve.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Merci d'être avec nous ce dimanche et surtout avec notre invité, Henri Guénaud, auteur de cette tribune sous forme d'un appel au sursaut. Nous marchons vers la guerre comme des somnambules. Est-ce que la France l'a compris peut-être avant d'autres pays, Henri Guénaud? On voit que le président Emmanuel Macron a toujours une position mesurée, nuancée, pas belliciste justement.
Alors moi, je crois que le président de la République a le discours sans doute le plus responsable de tout le camp occidental. On va reparler de l'Occident dans quelques minutes, mais il me semble qu'il n'en a pas tiré les conséquences, ni avant, ni après. C'est-à-dire que vraiment, si nous voulons arrêter ce processus, dont je répète que c'était le but de ma tribune, c'est il faut bien le comprendre. La guerre, c'est une montée aux extrêmes, et il y a toujours un moment où, dans cette montée aux extrêmes, les hommes perdent la maîtrise des événements. Bon. Ça s'est toujours passé ainsi. Vous voyez, au début de la Seconde Guerre mondiale, Churchill, et puis ensuite Roosevelt n'avaient pas l'intention d'aller bombarder massivement les civils allemands. Eh bien, en 43, ils l'ont décidé et ils l'ont fait à Dresde en 1945, le sommet de la courbe des bombardements pour essayer de briser le moral des Allemands et de les retourner contre le régime. À Dresde, on fait au moins 40 000 morts brûlés vifs en une nuit. Bon, ce sont les représentants des démocraties occidentales qui le font. Ils n'avaient jamais pensé qu'un jour ils feraient ça.
Et bon. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'Emmanuel Macron ne tire pas toutes les conséquences de sa position?
On n'a rien proposé. Vous voyez, si je compare à 2008, c'est-à-dire la crise géorgienne, qui est une crise beaucoup plus réduite, mais exactement de même nature, c'est-à-dire qu'après le Kosovo, où on a violé nos propres règles, on pourra reparler, si vous voulez, du droit international, parce que je trouve que c'est un vrai sujet, il y a la morale et le droit, c'est deux sujets dont on devrait reparler. Mais Nicolas Sarkozy, président de l'Union européenne, prend son avion, grande dame de tous les diplomates, qui disent non, il faut d'abord réunir les chefs d'État et de gouvernement, avoir un mandat, il dit ça m'est égal, j'y vais, il est allé à Moscou, il est allé à Tbilissi, et il a négocié. Bon, il est revenu avec un accord. Donc, évidemment, la Géorgie a perdu, au moins temporairement, le contrôle de provinces.
Mais la Géorgie n'est pas la Russie. Et aujourd'hui,
La Géorgie, la Russie a pris le contrôle, de provinces. On a sauvé la Géorgie. Et je vais vous dire une chose quand même qui me paraît, moi, très importante, même si ça fait ricaner les imbéciles. Nous sommes allés... Moi, j'ai accompagné le président Sarkozy en 2012 à Tbilissi. Il a été accueilli malgré la perte de ces deux provinces. On aurait pu dire, c'est scandaleux, vous avez laissé amputer. Et il a été accueilli par une foule, mais immense, qui l'a salué comme un sauveur.
Ça veut dire que les concessions territoriales pourraient être acceptées par les Ukrainiens. C'est ce que vous êtes c'est la conclusion à laquelle vous arrivez.
En tout cas, penser que c'était peut-être pas une solution idéale, mais que... Ils avaient sauvé leur pays. Voilà, il y a un historien l'autre jour sur un plateau a quand même fini par oser dire à une représentante ukrainienne qu'ils n'en cédera jamais. Peut-être. Enfin, moi, pour l'instant, je n'en sais rien, mais. C'est dans toutes les guerres, c'est sur la table. C'est l'historien disait, mais vous savez, la France en 1871, elle a été battue, elle a accepté de perdre l'Alsace et une partie de la Lorraine. Alors elle l'a récupérée après en 1918, mais à la fin, il faut bien finir. Où on finit la guerre, où on va à la guerre totale, et là, la guerre totale, elle nous mène où? C'est toujours la même question. Donc après, évidemment, ça dépendra aussi de ce que veulent les Ukrainiens s'agissant des concessions territoriales et de ce que se veulent les Russes. Je rajouterais que plus on attend. Plus il y a de sang russe qui est versé sur ces territoires, plus ça va être difficile de convaincre la Russie de se retirer. Voilà.
Alors,
donc on a intérêt à ce que ça aille.
Vous réclamez finalement une politique spécifique, proprement française dans les circonstances, une politique d'équilibre, si je comprends bien.
Oui, enfin, pour être française ou européenne, ça serait encore mieux.
Sous le signe du gaullisme à bien des égards, que serait une politique d'inspiration gaulliste? C'est un peu votre religion politique. Que serait une position gaulliste dans les circonstances?
Alors, c'est pas une religion du tout. Vous savez, le gaullisme, c'est une histoire. Être gaulliste, ça veut dire que cette histoire nous apprend encore quelque chose.
Et dans les circonstances, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire?
Moi, j'observe d'abord, on m'a fait ce troupeau, c'est pas gaulliste, vous comprenez ce que vous dites, mais vous savez quelle est la première visite que fait le général de Gaulle en 1944 et le premier traité que signe le gouvernement provisoire réinstallé à Paris avec quel pays? C'est à Moscou et il signe avec Staline. Voilà. Quel est le premier pays occidental qui reconnaît la Chine de Mao?
Oui, c'est de Gaulle.
C'est de Gaulle. Bon, après, pour que les États-Unis fassent pareil, il faudra attendre Kissinger dans les années 70. Donc, vous savez, la politique, pas si on aura le temps d'y revenir, mais la politique, c'est pas le bien contre le mal, l'idéal contre.
Et pourtant, nous avons une exigence morale aujourd'hui.
Oui.
Certains disent que nous avons un devoir moral de nous opposer à Poutine.
Nous avons un devoir moral, la politique a un devoir moral. Son devoir moral, c'est de faire en sorte que ce monde soit un peu meilleur que ce qu'il est, qu'il y ait le moins de souffrance possible. Ça ne veut pas dire qu'on peut extirper la souffrance. Ça ne veut pas dire que... vous savez, on va pas... fin du droit international, on vous dit la guerre, c'est très mal. Alors en 1900, dans les années 20, on a mis la guerre hors la loi. Vous avez vu ce que ça a donné, hein, ça a été très efficace. Voilà, c'est... Bon, aujourd'hui, avec le droit international, on a l'impression qu'on va résoudre tous les problèmes. Alors d'abord, les trois quarts du monde regardent ce que fait l'Occident, c'est-à-dire il n'y a pas de jugement de valeur dans cette affaire. L'Amérique et ses alliés, bon, dont nous sommes, elle n'a pas l'impression que l'Occident s'est empêché ou réfréné pour faire la guerre depuis des décennies.
Alors, bon, faut revenir sur la guerre en Irak.
Mais la guerre en Irak, c'est très intéressant, la guerre est morale. La guerre est la morale. Moi, je me souviens, d'ailleurs, certains de mes contradicteurs à l'époque ont soutenu Mordicus qu'il fallait faire la guerre en Irak, parce qu'il avait peut-être des armes de destruction massive, on s'est rendu compte que c'était un mensonge, mais de toute façon, il mentait tout le temps. Si on ne l'arrêtait pas, il ne s'arrêterait pas là, enfin, on parle de Saddam Hussein, c'était un dictateur sanglant, très bien, donc, il y a eu la guerre en Irak, alors ils n'y sont pas allés, les Américains, avec 150 000 hommes, hein, avec 500 000 hommes, on a bombardé pendant 40 jours, et on a pris Bagdad, ils ont pris Bagdad, ils ont fini par trouver Saddam Hussein, il a été exécuté, très bien. Ça a coûté, alors les estimations sont très vagues, mais il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire, entre 100 000 et plus d'un million de morts. Je pense qu'on est plus près du million quand on fait l'ensemble du bilan. Ça a entraîné les conséquences qu'on sait en Syrie. Des millions de réfugiés.
Vous savez ce que vont vous dire les Américains, certains. C'était une guerre juste. Ça n'a rien à voir. Non, qu'est-ce que vous répondez à cette argumentation?
Je vais vous dire. Attends, des millions de réfugiés. Bon, Daesh, le terrorisme. Hein, etc. Donc ça a été une bombe à fragmentation. Donc très bien, on peut se dire j'ai bonne conscience parce que j'ai abattu le dictateur. Mais quand on regarde le bilan et la politique, elle doit faire ça. L'homme politique ou l'homme d'État, il est là pour peser. Il est face à des cas de conscience.
Mais permettez-moi de vous poser une question difficile. Est-ce qu'il faut résister aux pressions morales, pardonnez la formule, du président Zelensky qui demande une intervention toujours plus grande des Occidentaux?
Moi, je vais reprendre la formule de Friedman, l'éditorialiste.
Thomas Friedman.
Thomas Friedman, du New York Times. Pas du tout mon école de pensée. Et il dit quelque chose qu'on n'ose pas dire, mais il dit, comprenez, si j'étais Zelensky, si j'étais ukrainien, je dirais et je ferais la même chose. Il dit seulement, voilà, moi je suis américain. Je suis américain et là on est en train de mettre en danger la sécurité des États-Unis.
Mais nous sommes européens, Henri Guénaud.
Ben oui,
et vous êtes souverainiste. On a rappelé l'égoïsme, mais vous êtes souverainiste. Comment un souverainiste ne défend pas plus que cela la souveraineté?
D'abord, je suis européen et français, c'est-à-dire que je sais qu'une guerre européenne, une guerre en Europe, ça nous coûterait très très cher.
Mais la souveraineté.
Mais le gaullisme dont vous réclamez, c'est ça, c'est la souveraineté des peuples.
Oui. Mais alors,
c'est la souveraineté.
Elle est quand même un peu bafouée en ce moment par la Russie.
Non, le gaullisme, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Ben oui.
La souveraineté d'un peuple, c'est quoi, monsieur Barry? La souveraineté d'un peuple, pas se tromper sur les mots, la souveraineté d'un peuple, c'est le droit imprescriptible d'un peuple qui a conscience d'être un peuple, son droit imprescriptible à dire non, à refuser, à opposer un non catégorique à tout ce qui peut la servir.
C'est ce que font les Ukrainiens.
Ce qui est en train de se passer.
Mais très bien, absolument. Les Ukrainiens, tout peuple d'ailleurs se forge, toute conscience d'un peuple se forge souvent dans le sacrifice sanglant, ce qui est le cas. Bon. Probablement le cas, on verra à la fin comment ça se passe. Donc un peuple qui était divisé, fracturé, qui se rassemble pour dire non. Mmh. Bon. Mais ça, c'est ça la souveraineté. Personne ne va leur enlever cette souveraineté.
Faut pas la défendre.
Et la nôtre.
Mais vous avez évoqué une tension.
Mais est-ce que la nôtre, ce n'est pas la leur aussi? Est-ce que la leur, ce n'est pas la nôtre? Est-ce que nous ne sommes
si
pas tous
nôtre,
en train de défendre
non.
nos mêmes...
Encore une fois, non. Encore une fois. Soit on considère que, ensuite, Poutine, on le sait aujourd'hui, enfin, la Russie n'annexera pas l'Ukraine. Hein. Elle ne peut pas.
Elle n'en a pas les moyens.
Elle n'a pas les moyens, elle ne le fera pas.
Et puis,
je pense qu'ils ont renoncé. Ils ont renoncé à ce but de guerre parce qu'en fait, ils pensaient arriver à être accueillis au moins dans l'Est en libérateur. Ça n'a pas été le cas. Bon, la guerre éclair a raté. L'accueil n'a pas été celui-là. Donc, peut-être prendra-t-il d'autres morceaux de territoire, puis après il y aura des négociations, mais il va pas prendre l'Ukraine. Donc la question pour nous, c'est est-ce qu'on accepte les conséquences de ce qu'on veut, c'est-à-dire si on dit je défends l'Ukraine, la souveraineté de l'Ukraine comme les Ukrainiens, c'est-à-dire non, il faut en accepter toutes les conséquences.
Moi, c'est-à-dire aller mourir pour demain c'est ça?
Non, mais avec des conséquences qui peuvent être...
Pour nos enfants
Oui, mais enfin, qui peuvent être terribles. Moi, j'ai un imbécile sur Twitter, on m'a envoyé cette capture d'écran qui dit, s'il y a 10-15 millions de morts, ça m'est égal, de toute façon, il faut l'abattre.
Mais voilà, vous parlez d'une tension tragique, en quelque sorte. Je reprends votre formule. Si vous étiez ukrainien, vous auriez la politique du président Zelensky, mais vous n'êtes pas ukrainien. Est-ce que de ce point de vue, ce n'est pas le propre du tragique, c'est-à-dire Zelensky a intérêt à internationaliser le conflit et les Européens ont intérêt à ne pas l'internationaliser. Est-ce que ce n'est pas là le propre du tragique dans ce conflit?
Les Européens, enfin tous les autres, ont intérêt à ce que tout ça ne dégénère pas compte tenu de ce que peuvent être les conséquences de ce conflit. Ça ne veut pas dire sacrifier les Ukrainiens, ça veut dire simplement qu'il faut arriver à canaliser cette violence qui va finir par nous échapper si nous continuons à faire de la surenchère. Voilà, c'est je crois que c'est la responsabilité
de tous les Européens. La surenchère, le mot va pas réagir, Henri Guénot.
Comment ?
Nous faisons de la surenchère.
Franchement,
Les canons
César.
Mais la fermeté a payé lors de la guerre froide. Quelle leçon avons-nous ?
On n'a jamais fait ça et on a toujours négocié parallèlement. Voilà, c'est.
Mais la crise des missiles de Cuba,
la fermeté a payé pendant la crise de Cuba, par exemple.
Mais avec des négociations et des concessions. Voilà,
c'est pas. Oui, il y a eu quelques concessions, oui.
Oui, si, il y a eu des concessions.
On les a pas mis en scène. Des armes nucléaires de Turquie.
On les a pas mis en scène, mais il y avait bien des concessions parce que, au fond, personne ne voulait la guerre, sauf peut-être quelques militaires d'un côté comme de l'autre.
Mais si on pousse votre raisonnement jusqu'au bout, est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il faut entériner l'annexion de la Crimée aujourd'hui?
Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Non, mais. Ma conviction profonde, c'est que la Russie ne rendra jamais la Crimée. Bon. Mais
on a l'impression que la conséquence de ce que vous dites, c'est qu'il faut prendre acte de ça.
Ça, j'allais dire, au fond, c'est pas nous qui allons décider si la Crimée revient à l'Ukraine ou pas. Nous, la seule chose que nous avons à décider pour essayer d'ouvrir des négociations, c'est la neutralisation. C'est-à-dire, vous n'entrez pas dans l'OTAN, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des accords, des garanties de sécurité, mais vous n'entrez pas dans l'OTAN, vous n'entrez pas dans l'Union Européenne. Après tout, la Turquie, elle est dehors, elle a demandé son adhésion en 87, elle est toujours dehors, c'est-à-dire, c'est de l'Union Européenne. On me dit, vous niez la souveraineté des Finlandais, des Ukrainiens. Non, parce que eux, leur souveraineté, elle réside dans le fait de poser leur demande d'adhésion, et notre souveraineté à nous tous, les alliés de l'OTAN, c'est de dire oui ou non. Et d'autre part, il ne me semble pas raisonnable aujourd'hui de continuer à étendre l'OTAN sans remettre sur la table la question de ses finalités.
Nous allons le faire, Henri Guénot. Une courte pause, il y a quand même un sujet majeur aussi dont il faut parler, c'est les opinions publiques. Parce qu'il y a aujourd'hui, évidemment, l'effet des sanctions également sur nos économies. Jusqu'où les opinions publiques vont accompagner cela? Et puis le rôle du politique, la connaissance historique, la culture de l'histoire, comment peut-elle servir aujourd'hui dans cette guerre? Une courte pause et on se retrouve.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et dans l'actualité, Emmanuel Macron se rendra à Bruxelles demain pour une réunion du Conseil européen sur l'Ukraine et le blé. Henri Guénot, on va en parler, le blé arme géopolitique, il y a le blé ukrainien et le blé russe, le spectre de la crise alimentaire et donc sociale aussi dans de nombreux pays réels. Est-ce que les opinions publiques vont résister ?
Alors il y a deux problèmes, hein. Sur le blé, c'est qu'il y a des pays qui risquent de connaître la famine. Voilà, donc ça c'est avec des déstabilisations politiques très profondes, hein. Je veux dire l'Égypte par exemple, quand même le plus grand pays arabo-musulman et qui est dépendant à 80-90% du blé, et on va pas du jour au lendemain trouver des substituts au blé ukrainien et russe. La Russie est le premier exportateur de blé du monde. Et l'Ukraine, le quatrième ou cinquième, enfin à peu près égalité avec la France. Donc voilà, il faut. Ça, c'est la première des choses, c'est les impacts géoéconomiques et par conséquent géopolitiques. Ça ne vaut pas que pour le blé. La Russie est le troisième exportateur de pétrole du monde. Et les autres pays exportateurs, ils semblent ne pas avoir très envie d'augmenter leur production. Elle est le premier exportateur de gaz. Alors, et les autres pays ont pas l'air de vouloir beaucoup compenser la diminution des exportations éventuelles du gaz. Bon, elle est très bien placée sur un tas de métaux en matière de commerce international, qui sont des métaux qui nous sont indispensables.
Et donc, on arrête les sanctions alors ?
Donc, je ne sais pas si on arrête les sanctions, mais non, le problème est, on essaye de négocier, oui ou non ? Parce que plus ça dure, plus ça va être problématique. Ça va demander. On sanctionne nous-mêmes, on sanctionne une bonne partie du monde. Alors, au début, on nous a dit, mais c'est l'économie de l'Espagne, hein, c'est le PIB de l'Espagne, ce qui était une imbécilité sans nom. Hein, on tenait pas compte de la parité des pouvoirs d'achat, on tenait pas compte de l'importance dans le commerce international, etc. Donc là, on a ça risque d'entraîner une réorganisation de tous les flux commerciaux et peut-être des chaînes de valeur qui est quelque chose de gigantesque. Et il faut bien comprendre que l'Europe, dans cette affaire, si demain, regardons la carte, hein, il y a une bonne partie du monde qui n'est pas de notre côté, hein, dans cette histoire, qui attend l'Inde, la Chine, le Brésil, même le Brésil de Lula demain. Même si Lula redevient président, il a fait des interviews qui laissent penser que il n'est pas du côté des sanctions pour la Russie, une bonne partie de l'Afrique, le Moyen-Orient, une bonne partie de l'Asie. Enfin bon, je veux dire que ce qui se passe est quand même extraordinaire parce que nous, on va payer beaucoup plus cher. Parce que ça crée des hausses de prix. Et pendant ce temps, la Russie fait des rabais à certains pays.
Quand je vous entends dire, est-ce que les sanctions, est-ce qu'on doit en finir avec les sanctions? Vous répondez, je ne sais pas. Vous dites, je ne sais pas, j'entends, on devrait peut-être.
Non, ce que je crois, c'est que...
Est-ce qu'on était trop loin dans les sanctions?
C'est-à-dire, moi, je comprends que les sanctions puissent servir dans la négociation. Je ne comprends pas qu'on se contente tous les 15 jours de dire on en met un peu plus, sans d'ailleurs vouloir les conséquences, encore une fois, de ce qu'on veut là, c'est-à-dire de ce qu'on veut pour nous Européens et de ce qu'on veut pour la paix du monde. Hein. La question est-ce que nous avons compris que cette escalade était un processus extraordinairement dangereux pour nous, pour l'Europe, pour le monde entier, et nous sommes décidés à essayer. Je suis pas sûr qu'on y arrivera, mais est-ce que nous sommes décidés à tout faire pour enrayer cette escalade? Donc, commencer à négocier. Moi, on pourrait très bien dire à la Russie, écoutez, si on négocie pas, nous, on va accroître les sanctions. Si on négocie pas, on va continuer à livrer des armes. Si on négocie pas, on va faire durer cette guerre. Mais voilà ce qu'on met sur la table. Voilà, on n'a rien mis sur la table pour l'instant. La question, elle est là.
L'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, avant-hier sur Europe 1, et il disait effectivement, ce n'est pas la guerre, dit-il, du monde entier contre la Russie, c'est l'Occident que la Russie. On lui a posé la question, est-ce qu'il y a un pacte aujourd'hui entre la Russie et la Chine? Il nie ce pacte, mais il dit que, en fait, tout ça.
La question a été réglée d'ailleurs par Monsieur Biden. Ça lui a échappé, et quand il dit, de toute façon, il faut affaiblir suffisamment la Russie pour faire peur à la Chine, pour qu'elle n'aille pas.
Vous pensez que c'est le véritable objectif?
Il l'a dit. Non, mais il l'a dit. Alors après, on a dit, enfin, la Maison Blanche a dit non, mais c'est pas vraiment ce qu'il a voulu dire, comme ce qu'il avait dit. Poutine est un boucher, faut pas qu'il reste au pouvoir. Comme le secrétaire à la défense américaine avait dit, il faut affaiblir durablement la Russie pour qu'elle recommence jamais, ce qui était encore une fois les mots de 1918 des vainqueurs de 1918. Mais ils l'ont dit. Voilà.
Donc, Européens, on est pris dans cette nouvelle guerre froide.
Moi, je veux poser une question aux Européens, c'est que si demain, nous allons, c'est une des options possibles, vers une nouvelle guerre froide avec une bonne partie du monde. L'Europe n'a très peu de matières premières. Elle est très dépendante. Alors la France l'est un peu moins sur le blé, par exemple, hein, mais sur beaucoup d'autres les uns et les autres, sur beaucoup dans beaucoup de domaines, sont très dépendants des matières premières. Que fera l'Europe? Est-ce que chaque fois que ses approvisionnements seront menacés dans le monde, la sécurité de ses approvisionnements, elle fera la guerre dans le monde, ou est-ce que elle acceptera tous les chantages? Je veux dire, l'Europe, elle est d'une vulnérabilité considérable dans cette affaire. L'Europe n'a pas intérêt au désordre du monde, elle n'a pas intérêt à ce que le monde se fracture, et ça, il faut en avoir conscience.
Vous dites que les États-Unis ont intérêt à ce bouleversement de l'ordre mondial?
Ils ont moins d'inconvénients, et je pense qu'il y a quand même des voix aux États-Unis qui pensent que c'est pas l'intérêt non plus des États-Unis, que c'est l'intérêt de personne, en réalité. Voilà, c'est aller toujours plus loin dans cette escalade n'est l'intérêt
de personne. Alors, nous nous rapprochons de la fin de cet entretien. Une question toute simple sur la manière d'aborder les questions dont on parle aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déficit de culture historique chez certains de nos dirigeants aujourd'hui? Quand vient le temps d'aborder les Russes, la psychologie des peuples, toute une série de notions, est-ce que ce n'est pas manquant dans le débat?
Je vais faire deux réponses. D'abord, je pense qu'il faut toujours essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Vous savez, même quand ce sont des mythes, hein, les mythes, ce sont... Malraux disait des valeurs suprêmes et ordonnatrices. C'est pas, comme disait Dumézil, c'est pas des jolies histoires fausses. Ce sont des choses qui structurent la pensée et la vision du monde de chacun. Donc, il faut essayer de les comprendre, de les décortiquer.
Et vous arrivez à vous mettre dans la tête de Poutine?
Mais c'est pas la tête seulement de Poutine. Ce qui m'intéresse, ce que je crois profondément, mais je peux me tromper, c'est que Poutine, comme beaucoup de gens en Russie, sont redevenus non pas communistes, soviétiques, mais slavophiles. C'est-à-dire que ils ont une vision du rôle de la Russie dans le monde slave. Bon, donc, voilà, il faut le comprendre. C'est à la fois ce qui a accouché des pires choses en Russie, mais aussi de la grande littérature russe, du théâtre russe, de la musique russe, etc.
Il y a un enjeu de civilisation derrière cette guerre.
Il y a un problème de civilisation. Les Russes ont toujours voulu être européens, du point de vue de la civilisation, jusqu'à un certain point. Comme disait Brodel, on ne peut pas reprocher aux moscovites de vouloir demeurer moscovites. C'est-à-dire que malgré tout, ils disent, au fond, on n'est pas tout à fait comme vous. Voilà. Donc il y a une friction de civilisation qui est très importante. Mais je vais finir, si j'ai une minute, pour parce que on va ramasser tout ça sur la question de la politique face à une situation de ce genre. Vous savez, on dit, mais l'ordre international, le droit international a été violé, donc si on fait rien, ça va être le chaos. Le droit international, ça sert non pas à éliminer la violence, ça sert à essayer de canaliser une violence qui est dans l'homme. Comme d'ailleurs la politique, comme la culture, comme la civilisation, comme l'éducation, ça sert à canaliser quelque chose que nous ne pouvons pas réduire à rien. C'est-à-dire, il suffit pas de dire j'interdis le crime ou je condamne le crime pour que le crime disparaisse. Bon. Le problème, c'est quand l'état de droit, par exemple, l'état de droit international ou national, devient une religion par laquelle on pense que on va faire disparaître la violence et que donc il n'y a rien d'autre qui compte, on se trompe, parce que le reste, ça compte aussi. C'est-à-dire que la politique, ça compte autant que le droit. Et là, je pense que il faut que la politique reprenne ses droits, sur le discours moralisateur, mais qui n'est pas moral. Il n'est pas moral parce qu'il y a des gens qui meurent, parce qu'il y a des gens qui vont mourir et parce qu'ils risquent d'en mourir énormément si on continue il y a beaucoup de souffrances à la clé. Donc, la morale en politique, c'est le cas de conscience, c'est pas la bonne conscience. La morale en politique, ça consiste à vouloir les conséquences de ce qu'on veut, à les assumer et à affronter en conscience des dilemmes tragiques, c'est-à-dire des dilemmes pour lesquels il y a de réponse dans aucun catéchisme. C'est la tragédie, c'est Camus, hein, avec Antigone. Hein. Antigone a raison et Créon n'a pas tort. C'est-à-dire que on est devant un dilemme tragique et on ne peut le résoudre. La politique est faite pour ça, dans ce moment où s'enchevêtre le bien et le mal, où il n'y a pas le bien contre le mal, mais où c'est compliqué, où il n'y a pas de réponse toute faite. Eh bien, elle est là pour prendre ses responsabilités et pour trancher. Mais c'est pour ça que j'ai cité René Char à la fin de ma tribune. Vous savez, je finis là-dessus. Ils sont au-dessus d'un village avec ses maquisards. On va tuer un de leurs camarades. Les nazis sont en bas, les SS. Est-ce qu'on tire sur les SS pour sauver le camarade ou pas? Si on tire sur les SS, le village sera massacré. Et René Char, qui est chef de maquis, malgré les yeux qu'il implore de sauver leur camarade, ne donne pas l'ordre. Voilà, c'est ça la politique, la morale de la politique. Elle est dans ce
la morale de la politique, mais pas de moralisation.
Mais non, c'est de la fausse morale. Merci. C'est même le contraire, puisqu'on se moque des conséquences. Voilà. Et si vous êtes le bien, vous pouvez tout vous permettre. Ça, c'est l'esprit de croisade, et ça finit par tuer les tous. Et Dieu reconnaîtra les siens. Vous savez, hein, c'est la croisade des Albigeois. C'est le massacre de Béziers. Voilà. Mais ça, c'est pas la morale de la politique.
On a compris. Voilà. Revenons c'est à la vraie politique pour éviter de marcher comme des somnambules vers la guerre. C'est le titre de votre tribune. Merci Henri Guénaud d'avoir été notre invité.
À l'intérieur comme à l'extérieur.
Tout à fait. Ce dimanche, merci à mes camarades Mathieu Bocoté, Nicolas Barret. En ce dimanche, évidemment, bonne fête des mères à toutes les mamans. Fête des mères, bien notez l'expression. Bon dimanche et à très vite. Europe 1.